VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30 ans universel du mardi 14 novembre 2017. Abdourahmane Dia avec vous en direct de Washington. Les titres. Au Zimbabwe, des chars seraient visibles aux environs de la capitale au lendemain de la mise en garde du chef de l'armée appelant à la fin de la purge au sein du parti au pouvoir.
Si l'armée décide à un moment donné que ces dangers sont devenus extrêmes, je crois qu'elle risque d'intervenir. Le problème, c'est de savoir si elle est elle-même unie.
Analyse de la situation au Zimbabwe dans la deuxième partie de cette édition. Une ONG norvégienne appelle l'ONU à mieux protéger les civils en Centrafrique. L'ONU dénonce la détérioration des conditions de détention des migrants en Libye et met en cause l'Union européenne. Au Yémen, les rebelles accusent l'Arabie saoudite d'avoir détruit le système de navigation de l'aéroport de Sanaa, ce qui pourrait impacter les vols humanitaires. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. On démarre tout de suite par la situation au Zimbabwe. Un convoi de plusieurs chars aurait fait mouvement aux environs de Harare, la capitale, selon des témoins. C'est au lendemain d'une mise en garde sans précédent du chef de l'armée au président Robert Mugabe. Morgan Guerriet nous en dit plus.
Des témoins ont confirmé le déplacement d'un convoi de véhicules militaires, dont des chars, aux abords de la capitale. Dans une mise en garde sans précédent, le chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, a dénoncé hier l'éviction du vice-président du pays et prévenu que l'armée pourrait intervenir si la purge ne cessait pas au sein de la ZANU-PF au pouvoir. Emmerson Mnangagwa, 75 ans, longtemps pressenti comme dauphin du président Mugabe, a été démis de ses fonctions la semaine dernière. Il a fui le pays après un bras de fer avec la première dame, Grace Mugabe, 52 ans. Réagissant aux déclarations du chef de l'armée, le mouvement pour le changement démocratique, principal parti d'opposition, et la branche de la jeunesse de la ZANU-PF ont tous deux exhorté au maintien du régime civil, autrement dit contre une prise du pouvoir par l'armée.
Les Nations Unies ont mis en garde Kinshasa contre d'éventuelles violations des droits de l'homme lors des mobilisations prévues demain à l'appel de l'opposition. Les opposants au président Joseph Kabila entendent dénoncer la prolongation du calendrier électoral qui prévoit l'organisation d'élections en décembre 2018. Conformément à son mandat, la MONUSCO se réserve le droit d'observer les événements et de rapporter d'éventuelles violations des droits de l'homme, a déclaré le patron de la MONUSCO, Maman Sidikou, dans un communiqué. L'ONG norvégienne Refugee Council a demandé que les civils centrafricains soient mieux protégés et que la MINUSCA soit renforcée pour éviter que le pays entier ne retombe dans la guerre civile. Le point avec Solange Nyamulisa. Voilà quelques soucis techniques avec...
Pour ce faire, elle demande un renforcement de la MINUSCA qui compte quelques 10 000 casquets bleus. Le 6 novembre, 28 organisations de la société civile avaient déjà lancé un appel pour plus de troupes pour la MINUSCA. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, avait aussi demandé une augmentation de 900 casquets bleus supplémentaires après une visite en Centrafrique le mois dernier. Le renouvellement du mandat de la MINUSCA doit être examiné demain mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Selon le projet de résolution introduit par la France, la MINUSCA serait autorisée à déployer sur le terrain jusqu'à 11 650 personnes, dont plus de 2 000 policiers et près de 500 observateurs militaires.
L'opposition au Togo qualifie de déclaration de guerre les récents propos du président Fornia Singbe accusant ses détracteurs d'être responsables des violences des manifestations de ces derniers mois. Les opposants ont réclamé l'appui de la communauté internationale afin de mettre en place une commission d'enquête internationale sur les crimes qui se produisent au Togo depuis plusieurs mois, selon ses opposants. Les employés de maisons tanzaniennes à Oman et aux Émirats arabes unis sont victimes d'abus, notamment sexuels, et sont exploités dans des conditions équivalentes à du travail forcé. C'est ce qu'a affirmé l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Dans un rapport d'une centaine de pages, l'ONG assure que de nombreux employés de maisons à Oman et aux Émirats sont surchargés de travail et sont sous-payés et sont souvent victimes d'abus. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Zedwar Hussein, a vivement dénoncé la détérioration des conditions de détention des migrants en Libye. Il a qualifié d'inhumaine la coopération de l'Union européenne avec ce pays. Ekiabadou.
La souffrance des migrants détenus en Libye est un outrage à la conscience de l'humanité, selon M. Al-Hussein, pour décrire la situation alarmante et catastrophique. Son appel intervient alors que le groupe de contact sur la route migratoire en Méditerranée centrale, réunissant 13 pays européens et africains, dont la Libye, a décidé lundi d'améliorer les conditions des migrants dans les centres de détention en Libye. Ces centres sont des hangars où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, émaciés et traumatisés, sont entassés les uns sur les autres. Dans son communiqué, le haut-commissaire dénonce l'aide fournie par l'Union européenne et l'Italie aux gardes-côtes libyens pour barrer la route aux flux de migrants.
Le président français Emmanuel Macron se rendra en Algérie le mois prochain pour la première fois depuis son élection. L'information annoncée par M. Macron n'a pas encore été confirmée par Alger. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'était rendu dimanche à Alger où il avait rencontré son homologue Abdelkader Messaël dans le cadre du comité mixte économique France-Algérie. Emmanuel Macron avait suscité la polémique en France pendant la campagne présidentielle en qualifiant la colonisation française de crime contre l'humanité lors d'un déplacement en Algérie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les députés russes doivent voter demain, mercredi, une loi permettant à tout média international opérant en Russie d'être désigné comme agent de l'étranger. Il s'agit là d'une riposte à l'enregistrement sous cette désignation de sa chaîne Russia Today aux États-Unis. Les précisions de John Lindon.
Le texte de loi ne comporte aucune liste des médias visés, mais il donne la possibilité au pouvoir exécutif de considérer comme agents de l'étranger les médias recevant des financements de l'étranger, a expliqué le vice-président de la Douma. Formellement, les députés amendent une loi datant de 2012 qui ne concernait que les ONG pour qu'elle puisse s'appliquer aux médias. Ce sera au ministère russe de la Justice de décider quels médias américains ou d'autres pays devront s'enregistrer en tant qu'agents de l'étranger. Ces amendements seront adoptés demain puis envoyés à la Chambre haute du Parlement avant leur validation par le président Vladimir Poutine. La nouvelle loi pourrait s'appliquer à Voice of America et Radio Free Europe, voire aux chaînes américaines CNN ou allemandes Deutsche Welle. La chaîne de télévision Russia Today, contrôlée par Moscou, a pour sa part annoncé hier s'être pliée aux exigences des États-Unis en s'enregistrant comme agent étranger.
La France appelle la Russie, alliée du régime de Damas, à faire cesser des attaques inacceptables en Syrie. La ville d'Akareb, située dans l'ouest de la province d'Alep et contrôlée par différents groupes rebelles, a été la cible hier de 3 frappes aériennes qui ont fait 61 morts, essentiellement des civils. C'est ce qu'a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le régime syrien a par ailleurs condamné des propos du ministre américain de la Défense qui a fait le lien entre la présence de la coalition internationale en Syrie et les pourparlers de paix organisés sous l'égide de l'ONU à Genève. Lier la présence américaine en Syrie aux pourparlers n'est qu'un prétexte pour tenter de justifier cette présence, a assuré ce mardi un responsable du ministère des Affaires étrangères syrien. Un nouveau cycle de pourparlers sur la Syrie doit se tenir à partir du 28 novembre à Genève, sous l'égide des Nations Unies. Les sinistrés du séisme ayant frappé dimanche l'ouest de l'Iran exprimaient leur amertume ce mardi soir en se préparant à passer une troisième nuit dans le froid hors de leurs habitations détruites ou endommagées. Ils dénoncent le manque d'assistance et le détournement de l'aide qui leur est destinée. Plus de 400 personnes ont perdu la vie dans le tremblement de terre qui a frappé l'Iran et l'Irak. Au Yémen, l'autorité de l'aviation civile contrôlée par les rebelles houthis a affirmé qu'une frappe aérienne avait détruit le système de navigation à l'aéroport de Sanaa, ce qui pourrait entraver les vols humanitaires. Les rebelles accusent la coalition arabe sous commandement saoudien d'avoir mené cette attaque. L'aéroport de Sanaa était déjà fermé aux vols commerciaux. Seuls les vols humanitaires étaient autorisés au cas par la coalition sous commandement saoudien. Le sort du Venezuela en défaut partiel et coincé par les sanctions américaines dépend désormais de ses alliés russes et chinois au lendemain de la réunion sans accord avec ses créanciers. L'agence de notation S&P Global Ratings a déclaré le Venezuela en défaut partiel sur le remboursement de 200 millions de dollars à l'issue d'une période de grâce de 30 jours sur le paiement de deux obligations. Le président Nicolas Maduro avait convoqué les créanciers après avoir annoncé sa volonté de restructurer sa dette extérieure. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, la Minute Éco avec Jacques Aristide.
En République démocratique du Congo, plusieurs communes de Kisangani ne sont toujours pas encore complètement desservies en eau potable. La panne d'eau et d'électricité qui frappe cette ville de moins 1 million d'habitants a été causée par l'inondation de la centrale électrique de Tchopo, appartenant à la Société nationale d'électricité. D'après les dirigeants de cette entreprise publique, des groupes électrogènes ont été amenés pour alimenter certains points stratégiques. Des militants de la région ont toutefois menacé de descendre dans la rue pour protester contre les pénuries. L'heure est au bilan pour le programme de transformation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, un projet de la Banque mondiale qui a démarré il y a 9 ans dans 13 pays de la sous-région. Un atelier y est consacré cette semaine à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Pour le docteur Aboubakar Koné de la BM, ce programme a amélioré de 30% les revenus et la productivité des agriculteurs en Afrique de l'Ouest. Le docteur Koné a indiqué que son institution proposerait une nouvelle série de projets qui iront au-delà de l'amélioration de la productivité pour toucher la transformation de l'agriculture. Le Sénat nigérian a donné son feu vert au président Muhammadu Buhari pour faire appel aux bailleurs étrangers pour un prêt de 5,5 milliards de dollars. 2,5 milliards serviraient à combler une partie du déficit budgétaire de 2017 et 3 milliards pour refinancer la dette intérieure.
La page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdulrahman, bonsoir à tous.
En Afrique, les derniers matchs sont sans enjeu ce mardi.
Eh oui, le Sénégal, après la qualification acquise vendredi 2-0 à Polokwane, qui retrouve l'Afrique du Sud à Dakar. Sadio Mané, l'homme providentiel, tout juste revenu de blessure, est déjà rentré en Angleterre pour rejoindre son club de Liverpool. Côté Burkinabé à Ouagadougou, les étalons voudront terminer sur une belle note face au coriace requin bleu du Cap-Vert.
Ciao, l'Italie n'ira pas à la Coupe du Monde.
Battue à Stockholm, 1-0, la squadra Azzurra se devait de battre les Suédois au stade Giuseppe Meazza à Milan. Eh bien, ils en ont été incapables, le score final 0-0, coup de tonnerre. Depuis 1958, l'Italie avait été de toutes les Coupes du Monde, une élimination qui fait mal, et le gardien Gianluigi Buffon, du haut de ses 40 ans, qui rêvait sans doute d'une meilleure sortie, puisque évidemment c'était son dernier match avec la sélection italienne. Élimination donc des Italiens qui ne verront pas la Russie l'été prochain.
Série de matchs amicaux sur la planète football ce mardi.
La Colombie a écrasé la Chine 4-0 ce matin à Chongqing. La Corée du Sud et la Serbie, toutes deux qualifiées pour le mondial, ont fait match nul, 1-0 à Séoul. Les autres rencontres de ce mardi, le Gabon contre le Botswana, le Nigeria face à l'Argentine en Russie, l'Algérie affronte la Centrafrique, l'Allemagne contre la France, le Portugal face aux États-Unis et le Brésil qui se déplace en Angleterre.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Et oui, Cleveland a remonté un retard de 24 points pour finalement s'imposer à New York 104-101, alors que Golden State a vécu une soirée plus maîtrisée à domicile. Victoire contre Orlando 110-100.
Merci Nicolas.
Le programme sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite. Tout de suite.
Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. La tension monte au Zimbabwe après une mise en garde sans précédent du chef de l'armée à l'encontre du président Robert Mugabe. Le général Constantino Chiwenga a dénoncé hier l'éviction du vice-président Emmerson Mnangagwa. Parlant de purge au sein du parti présidentiel, la ZANU-PF, il a prévenu que l'armée pourrait intervenir. Morgane Guérillec a rejoint Achille Mbembe, il est professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Wits à Johannesburg.
Le parti au pouvoir est extrêmement divisé, il en est même de l'armée. M. Mnangagwa a été associé à la gestion du pouvoir depuis 1981 et dont son limogeage devait nécessairement impliquer une intensification des luttes en prévision de la mort prochaine du dictateur zimbabwéen.
Vous dites que l'armée est-elle aussi divisée? Est-ce qu'elle a les moyens d'agir contre le président?
Mais tout dépend du rapport de force entre ceux qui, dans l'armée, estiment que les divisions actuelles mettent en danger leur assise au pouvoir. Si l'armée décide à un moment donné que ces dangers sont devenus extrêmes, je crois qu'elle risque d'intervenir. Le problème, c'est de savoir si elle est elle-même unie ou si une partie de l'armée est toujours alignée sur les positions de M. Mugabe.
Et quelles sont les relations entre Emmerson Mnangagwa et l'armée?
M. Mnangagwa a été associé à la gestion du pouvoir pendant très longtemps. Il n'aurait pas pu en être un des acteurs principaux s'il n'avait pas d'appui au sein de l'armée. Il est également certain que beaucoup ne voient pas d'un bon œil l'arrivée au pouvoir de Mme Mugabe qui suscite énormément d'opposition, une opposition tout à fait viscérale auprès des acteurs politiques qui ont fait l'objet d'une purge au cours des 10 dernières années.
Quelles sont ses chances à Grace Mugabe?
50-50. Elle est parvenue à recruter autour d'elle un groupe de quadragénaires, cinquantenaires, dont certains ont été associés eux aussi à la gestion de l'État depuis très longtemps. Mais en même temps, les purges successives au sein du parti ont considérablement affaibli celui-ci. M. Mugabe, vieillissant, presque grabataire, s'est fait énormément d'ennemis et est entouré maintenant de vautours prêts à l'assaut.
C'était l'historien camerounais basé à Johannesburg, Achille Mbembe.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum se met à l'heure du football. Ce jeudi, tous les qualifiés africains pour la Coupe du Monde 2018 en Russie sont désormais connus. Sénégal, Nigeria, Égypte, Maroc et Tunisie. Quelles seront leurs chances? Qui peut créer la surprise? Comment combler les lacunes notées du côté africain lors des derniers mondiaux ou autres compétitions internationales, telles que le non-paiement des primes et le manque d'organisation des fédérations africaines? Que s'est-il passé pour ces élites du foot africain comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana? Et pourquoi y a-t-il si peu d'entraîneurs africains? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit demain pour discuter d'un renouvellement du mandat de la MINUSCA en Centrafrique. Le secrétaire général des Nations Unies a déjà recommandé que 900 soldats supplémentaires soient déployés dans ce pays en crise. La MINUSCA fait face à de nombreuses critiques et des accusations de viol. Et pour faire le point, Claire Morin-Gibourg a joint à Bangui la coordinatrice de l'ONG NRC, Ingrid Boki.
Pour nous, c'est que nous avons pu constater dans les 6 derniers mois une résurgence de la violence avec des attaques assez brutales incluant des viols et des tortures contre les civils. Donc nous, ce que nous souhaiterions, c'est que la communauté internationale prenne ceci très au sérieux et adapte les capacités de la MINUSCA en fonction de la situation actuelle qui est très difficile en ce moment.
Que faudrait-il faire pour que la MINUSCA soit plus efficace?
Pour nous, à l'heure actuelle, il faudrait en fait que les Nations Unies puissent renforcer les capacités, notamment humaines, de la MINUSCA, qui pour l'instant sont totalement insuffisantes, car vu l'étendue des conflits qui s'étendent de jour en jour sur de nouvelles zones, la MINUSCA à l'heure actuelle n'est pas vraiment capable de pouvoir répondre à toutes les crises qui arrivent. Donc nous demandons à peu près que la nouvelle recrue soit dans la MINUSCA afin de pouvoir vraiment augmenter l'effectif et stabiliser le pays et éviter l'émergence de nouvelles zones de tension en dehors de celles qui sont déjà en tension à ce moment-là.
Qu'en est-il des accusations de viol contre certains membres des casques bleus?
Oui, c'est sûr que c'est un problème qui est pris très au sérieux. On a en confiance en les Nations Unies pour prendre en charge ce problème. Il a été démontré récemment ils ont pris des sanctions contre ce type d'abus qui sont vraiment pris très au sérieux. Mais ces cas sont une certaine minorité, qui bien sûr il doit y avoir zéro tolérance. Mais l'ensemble de la MINUSCA, hormis ces éléments, pourrait vraiment aider à la stabilisation du pays.
Qu'est-ce qui est le plus inquiétant pour vous?
Il faudrait pouvoir stabiliser les zones qui sont à l'heure actuelle et proches des conflits entre les groupes armés, car les civils sont pris au milieu et souvent ils doivent partir en laissant tout derrière eux. Pour certains, c'est pas la première fois qu'ils sont déplacés. Il y a des familles qui sont séparées à cause de ces déplacements, donc il faudrait vraiment que dans les zones qui sont actuellement en conflit, que les ministères puissent aider à arrêter un peu les violences entre les différents groupes armés afin que les populations civiles puissent en tout cas avoir accès à de l'aide humanitaire.
C'était Ingrid Boki, coordinatrice de l'ONG NRC.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En Côte d'Ivoire, l'annonce par l'administration Trump de son intention de mettre fin à la green card passe mal auprès des jeunes Ivoiriens qui rêvent de s'installer aux États-Unis. La loterie pour la Green Card ou Carte Verte permet chaque année à 50 000 étrangers de venir aux États-Unis et d'y travailler. À Abidjan, les explications de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Chaque jour, ils sont une centaine de postulants à la Green Card à prendre d'assaut les locaux de Immigrus, une entreprise créée en 2004 et qui essaie d'encadrer tous ceux qui rêvent d'obtenir le précieux sésame, la carte verte ou la green card qui leur permettra d'immigrer légalement aux États-Unis. Dafé Karamoko est technicien en bâtiment.
J'ai postulé à la green card parce que je considère que peut-être là-bas, aux États-Unis, on aura une opportunité un peu plus grande de pouvoir réussir dans les affaires. Surtout, comme le dit toujours tout le monde, le rêve américain, on a tous le rêve américain en tête. On pense qu'on a plus d'opportunités là-bas. Voilà pourquoi j'ai postulé.
Dafé Karamoko espère que Donald Trump ne réussira pas à faire supprimer la green card.
Les lois discriminatoires ne passeront pas aux États-Unis, donc on pense qu'on peut réussir là-bas. Parce que la green card apporte énormément à l'économie américaine. Mais le plus souvent, ceux qui y vont apporte une plus-value à l'économie américaine, donc je pense qu'il ne pourra pas supprimer cette green card.
Autre postulant, Dosso Ilias, étudiant en informatique et âgé de 24 ans. Lui aussi caresse l'espoir de se retrouver aux États-Unis par le biais de la green card.
Moi, je vais aller là-bas parce qu'il y a plusieurs opportunités pour la jeunesse. C'est-à-dire, comme moi, je suis dans le domaine informatique, on voit que là-bas, tu peux vraiment pousser tes connaissances dans différentes universités.
Alors, le président américain a annoncé son intention de suspendre la green card.
Donc, c'est une décision qui n'a pas été trop réfléchie. Peut-être il a dit simplement pour le buzz, quoi.
Sabo Adama espère lui aussi que la green card va se poursuivre.
C'est un pays qui présente beaucoup d'opportunités à la jeunesse. Et il pense qu'arriver aux États-Unis serait bien. C'est un pays de rêve. Et c'est mon pays de rêve. Raison pour laquelle, depuis 17 ans, j'ai joué la green card pour pouvoir aller aux États-Unis.
Alors, le président américain a récemment annoncé qu'il allait se prononcer pour la suspension de la green card. Vous l'avez appris, hein?
Oui, j'ai appris. Ça m'a semblé un peu bizarre. Ça ne m'a pas plu, mais je pense que ça ne va pas s'arrêter là.
Aka Yannick est le responsable des Immigrus, l'une des entreprises qui encadre les jeunes Ivoiriens qui veulent obtenir la green card. Il tente de les rassurer après la sortie de Donald Trump.
Certains clients étaient dans le désarroi, nous ont même appelé pour savoir est-ce que cette année encore ils pourront bénéficier de la green card. On leur a dit de se tranquilliser. Le président a pris la décision, et ça doit passer au Congrès et ensuite le Sénat. Pour ceux qui s'inscrivent cette année, c'est sûr qu'ils pourront avoir leurs résultats dans le mois de mai.
Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
À Kampala, la capitale ougandaise, certaines parties de la ville s'endorment et d'autres se réveillent dans certains quartiers, on ne dort pas du tout. Il y a moins de se faire de l'argent et c'est un style de vie à apprécier. Un de nos correspondants s'est rendu en Ouganda, le reportage de Davis Rouen Karingi, présenté par Gabi Dorsil.
Bienvenue à Kampala, une ville qui ne dort jamais et où le moyen de transport le plus facile est la moto, connue localement sous le nom de Boda Boda. Judas Saint-Amon pilote l'un de ces motos-taxis et il nous dit qu'il gagne plus d'argent la nuit que durant la journée.
Les gens qui se déplacent pendant la journée épargnent beaucoup, donc ils ne paient pas beaucoup pour les Boda Boda. Ceux qui viennent la nuit sont là pour le plaisir. Ils viennent pour dépenser. Si tu leur dis combien tu veux, par exemple, d'ici jusqu'à quelque part, ils payent parce qu'ils sont venus pour dépenser.
Dans la banlieue de Makindye, nous rencontrons Tasha, une jeune femme de 26 ans qui aime faire la fête toute la nuit avec ses amis.
La bonne musique me fait plaisir et j'espère que tout le monde aime la bonne musique. Nous allons là où il y a de la bonne musique comme autospa.
Ce n'est pas du tout facile parce que beaucoup d'entrepreneurs dépendent des fêtards comme Tasha. Il y a donc de la concurrence. Ali Matovu se montre satisfait.
Ce travail nous aide, moi et ma famille, mon père, ma mère et mes enfants. Je fais quelques boulots chez le boucher pendant la journée à Kalerwe et la nuit je viens travailler ici.
L'un des quartiers les plus animés de Kampala la nuit est Wandegeya. Ici, vous trouverez une variété d'entreprises qui vendent des chaussures, des vêtements, de la nourriture et du café. Écoutons Alta Charania.
Wandegeya est un endroit très animé. Nous avons beaucoup de choses que les gens aiment ici la nuit. Ils viennent se détendre ici après le travail. Les affaires sont lentes dans la journée parce que les gens sont au travail. Dans ce café, la plupart des gens viennent la nuit.
Ce n'est pas toujours la joie ou l'occasion de faire de l'argent quand la nuit tombe à Kampala. Parfois, des voleurs à main armée s'invitent au programme. Dans cette ville, quand certains quartiers s'endorment, d'autres se réveillent. Et c'est le début d'une vie nocturne très animée, génératrice de revenus, mais aussi parfois dangereuse.
Salut les amis, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Sims Lomami. À la console, Bill Barber, présentation Abdelrahman Diab. Festival Monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.